France Culture.
Nos critiques du jour, Olivier Joyard, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes critique et réalisateur et Charles Bosson, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes critique, essayiste et documentariste. Bienvenue à tous les deux.
Things happen here. We don't really talk about it. No one does.
They never even found a body. But maybe we could figure out what really happened to him.
Could have been a drifter.
Do you think somebody could kidnap a kid and keep him underground? In the sewers?
Qu'est-ce qui s'est passé à Lorraine?
On en est à 25 disparitions. Et il y a au moins 7 morts. Surtout des enfants.
Quelque chose d'horrible approche.
Mais qu'est-ce que c'est ?
Ça frissonne et ça rit aussi un peu hein, en studio et en régie. C'est la bande-annonce de ça. Bienvenue à Derry que l'on vient d'entendre. 8 épisodes. Le premier est à voir sur HBO dès aujourd'hui. Nous voici revenus dans l'univers du maître Stephen King, car je suis obligée de vous le dire, le terrifiant clown Pennywise, icône moderne de l'horreur et de retour. La série est bien sûr basée sur le roman culte de King, Ça, paru en 1986, mais aussi sur les adaptations cinématographiques de 2017 et 2019, déjà réalisées par Muschietti, et peut-être aussi un peu sur le téléfilm du 1990, vous allez nous dire. Elle se présente, cette série, en fait, comme un préquel, c'est-à-dire que nous remontons le temps pour découvrir les premières apparitions du clown tueur. Charles Bosson, un premier avis rapide.
Plutôt une bonne surprise pour ma part. Je pense que la série met très longtemps à démarrer et qu'en fait, ce qui fait sa force, c'est ce côté agrégat. Au bout d'un moment, voilà, elle est assez généreuse et tout s'additionne. Et nous, on a vu 5 épisodes sur les 8 et j'ai assez hâte de continuer.
Olivier, conquis par ça?
Pas trop, non. On entend dans la bande-annonce, mais qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question quand même. Parce que moi, je me suis demandé un peu constamment devant les 5 premiers épisodes, est-ce qu'on peut appeler ça une série d'horreur, une série sur l'enfance, une série sur l'Amérique? Et ça devrait être un peu tout ça à la fois. Et à mes yeux, c'est souvent pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que c'est une série qui provoque pas mal de dégoût, mais qui fait pas très peur. Ce qui est quand même un problème.
Alors Charles, peut-être, est-ce que vous pouvez nous resituer cette série par rapport au roman de King, mais aussi des films qui ont suivi? Qu'est-ce qu'elle apporte de neuf, finalement?
Alors, ce qu'elle apporte de neuf, en fait, c'est que c'est la première fois que c'est un sujet original, puisque en 2017, donc Andy et Barbara Muschietti, qui sont frères et sœurs, ce qui est assez rare, avaient commis les deux films, qui vraiment collaient aux deux téléfilms des années 90. Mais on sent que Stranger Things venait de passer par là, que l'Amérique, tout à coup, avait une espèce de nostalgie de boomers, on va dire, pour les ados à vélo, sans téléphone portable, qui vont résoudre des enquêtes. Et alors, la seule chose intéressante des films, c'était, je pense, les visions d'horreur, le gore. C'était beaucoup plus violent que Stranger Things. Et c'était l'apparition du petit dernier de la fratrie Skarsgård, les 6 enfants de Stellan, le petit Bill, qui avait un charme fou et il fallait reprendre le costume du génial Tim Curry, qui jouait dans le film des années 90, de 1990, qui avait ce physique assez carré, cet accent du Bronx, ce maquillage blanc avec ses touffes de cheveux rouges. Bill Skarsgård apporte quelque chose d'assez contemporain, quelque chose d'assez fluide, d'assez androgyne, une espèce de légèreté et un plaisir à jouer ce personnage-là. Alors, ce qui est amusant dans Welcome to Derry, c'est qu'on revient en arrière, donc là on est dans les années 60, et la grande question c'est quand est-ce que ce clown va apparaître, quelles sont ses origines. Et en ce moment, les séries et les films sont assez obsédés par la question des origines. On a vu Prey, le préquel de Predator, on a parlé récemment de Alien Earth, et en fait la question est toujours un peu la même, c'est qu'aujourd'hui l'Amérique se questionne sur son passé, a découvert un peu par magie que ça ne commençait pas avec les colons, et toujours, on brasse toujours un peu les mêmes éléments, mais je trouve, dans cette série-là, de façon assez originale, pour retrouver cette figure de fantasme collectif du clown, ça.
Alors, Olivier, vous nous dites que cette série, elle vous a pas fait peur, comment est-ce que c'est traité visuellement le gore? C'est quand même une série d'horreur.
Une série de... En fait, c'est comme s'il y avait une scène de chronique qui serait celle d'une petite ville des années 60. Alors, il y a quand même les enfants en vélo. Hein. On les voit malgré tout. C'est une obsession figurative américaine. Et puis tout à coup, comme ça, l'arrivée de l'horreur qui se fait, alors, à mon avis, quand même de façon assez progressive et surtout de façon, je dirais, plutôt... banal, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais... Alors, je suis peut-être pas un bon client pour Welcome to Derry, parce que c'était déjà mon avis devant les deux films qui ont été faits à la fin des années 2010. Où, en gros, vraiment, pour moi, le principal reproche que je ferais à cette série, c'est de pas être à la hauteur de son sujet. Hein. C'est-à-dire que la peur enfantine et la mise en scène de la peur enfantine, c'est quand même pas rien, quoi. Hein. Serge Danet, par exemple, avait beaucoup parlé de la question du lien entre la cinéphilie et les peurs enfantines, notamment à travers La Nuit du Chasseur. Bon, voilà. Là, ça pourrait prendre un chemin similaire, parce que, en fait, le monstre n'existe que par la peur
qu'il génère
et qu'il crée sur les gens. Donc, il n'y a que les enfants, en plus, qui voient ces monstres, qui les entendent, qui les sentent. Enfin, a priori, en tous les cas.
Mais alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous n'avez pas eu peur?
Parce qu'en fait, pour moi, ça met en scène la peur de personnages, et on est censé, par un effet comme ça de mimétisme ou d'identification, avoir peur avec eux ou avec elles. Or, pour moi, la peur n'est pas traitée, elle est minorée, en fait. En fait, il n'y a pas de violence, véritablement. Je ne comprends pas, en fait, de quoi ça parle exactement. C'est-à-dire que tous ces sujets dont a parlé Charles Bosson, évidemment les Amérindiens, les racines brutales et violentes de l'Amérique, ce qui est sous terre, enfoui, c'est quand même très clair. C'est-à-dire ce monstre, il vit sous terre. C'est à chaque fois accompagné par une mise en scène finalement extrêmement banale, qui se limite quand même globalement à un monstre qui sort du placard et des clignotements. Hein. Donc c'est presque mignon, parce que c'est assez vintage comme façon de mettre en scène. Mais je sais pas, on pense à comment dire, des films comme Fog de John Carpenter, qui parlait aussi d'une petite ville et d'un espèce de monstre insaisissable. Et là, c'était un brouillard épais, donc c'était beaucoup plus étonnant. Et il y avait une portée, je dirais, plus politique. Là, pour moi, ça me semble assez plat.
Charles, sur l'horreur, vous, est-ce que vous avez eu peur? Et peut-être nous parler du traitement de l'image. Comment on le voit, ce gore?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de lignes narratives. Je pense que c'est un problème au départ pour rentrer dans la série. C'est-à-dire qu'effectivement, on y parle de ces années 60, donc c'est le post-atomique, on a peur de la bombe, c'est les dernières années des lois raciales et racistes Jim Crow. Mais tout à coup, les peurs de chacun, alors c'est les enfants, mais c'est aussi les adultes, ça c'est assez intéressant, se manifestent par des flashs extrêmement violents, extrêmement gore, assez dérangeant.
Par exemple, vous pouvez nous donner une
image. Une petite fille, son père est mort broyé dans une usine de cornichons. Alors tout à coup, elle se retrouve dans un espèce de grand supermarché. C'est très warholien. Il y a même des soupes Campbell. Hein, c'est une référence assumée. Et tout à coup, vous imaginez ce que ça va produire en termes d'image d'inconscient phallique, patriarcal, etc. Et ces images sont très très dérangeantes. Il y a une fille qui tout à coup a des globes qui s'allongent. Elle va essayer de se scier les yeux. Enfin, je pense que les images gore sont extrêmement dérangeantes. Et là, la série dialogue avec le téléfilm original, qu'il faut pas non plus survaloriser, qui est un film, moi je l'ai revu, il est assez long, ça joue pas très bien, il y a pas énormément de moyens, mais c'est Tommy Lee Wallace qui était un des hommes à tout faire de John Carpenter, qui a été son directeur artistique, qui a fait des effets spéciaux pour lui, et les séquences d'horreur sont absolument brillantissimes, avec ces ballons qui se gonflent de sang, et puis cette créature de Pennywise, Gripsou, qui était un espèce de mix assez dingue de Bozo et Clarabelle, qui étaient les clowns que voyaient les petits-enfants américains dans les années 50, de John Wayne Gacy, qui était un tueur en série qui se déguisait en clown pour torturer et kidnapper les enfants, et de Ronald McDonald, qui est né en 1962, l'année de la série. Donc en fait, c'est une sorte de poche de tout ce qui terrifie un homme qui avait plutôt la quarantaine. Le roman date de 86, c'était son 17e, il était déjà extrêmement prolifique, et je trouve ça assez intéressant aujourd'hui de se dire qu'est-ce qu'on met dans ce sac de peur collective, et je trouve que la série ressemble à son générique, qui est vraiment très réussi, dans lequel on voit des espèce de peinture de vie américaine, un peu à la Norman Rockwell. Et tout à coup, l'imaginaire se gâte avec des formes un peu à la Lovecraft, avec des tentacules. On voit un petit garçon chez le dentiste et tout à coup, on se dit, mais il y a le docteur Mengele qui est pas loin de tout ça. Donc voilà, c'est pour moi, la série a cette force-là de commencer comme une sorte de peinture de vie tranquille et petit à petit de se gâter. Et on vous dira pas quand, on vous dira pas comment, mais quand apparaît la figure du clown, je me suis dit, voilà, c'est le réceptacle de toutes ces peurs. Mais la série, malheureusement, malheureusement n'est jamais à la hauteur d'une série immense qui était The Outsider, qui traitait à peu près de la même chose et qui était aussi une série HBO.
Alors, puisque vous l'évoquez, Stephen King, quand même, dans son œuvre, on le sait, il pointe particulièrement bien tous les impensés de l'Amérique et de l'histoire de son pays. Est-ce que, selon vous, Olivier, on retrouve par touche, peut-être, cette acuité dans la série?
Encore une fois, désolé, je vais pas aller dans votre sens, parce que on est très très loin d'autres adaptations, évidemment, Shining, Carrie, Stand By Me, toutes ces... En fait, il y a pour moi, c'est comme une preuve de plus du règne de l'IP, c'est-à-dire la propriété intellectuelle à Hollywood, donc en gros, le règne des adaptations, donc là, on n'en peut plus, quoi, des adaptations de Stephen King, il y en a encore plusieurs ces récentes années, et c'est vrai que dans les séries...
Il faut dire qu'il a été très prolifique.
Extrêmement, et puis, c'est pas contre lui, en réalité, ça n'a vraiment rien à voir, je crois que peut-être qu'il pourrait interdire les adaptations au bout d'un moment, mais ça fait partie de ces succès, pour moi, assez incompréhensibles, qui touchent un désir de l'époque, ou une paresse de l'époque, je sais pas vraiment, mais c'est surtout qu'on se retrouve avec une adaptation qui, en gros, fait clignoter comme ça des signes, des thématiques effectivement assez brutales et violentes, mais surtout qui se... Enfin, c'est comme si le ça, en psychanalyse, c'est quand même le lieu de la pulsion, c'est pas inintéressant. Alors, c'est pas la traduction it, c'est pas la traduction du ça en anglais, donc c'est nous, français, peut-être qui voyons ça, mais voilà, c'est le royaume des pulsions et de la libido, on attend ça un peu désespérément dans cette série. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi voir une série qui parle en filigrane de l'Amérique contemporaine, parce que le cinéma le fait énormément en ce moment, de Eddington à Une bataille après l'autre. Il y a vraiment des films dont c'est le sujet, la monstruosité américaine.
Et ça ne le fait pas.
Et le fascisme. Et pour moi, c'est vraiment une petite chronique sympathique qui nous raconte, voilà, il y a une petite intrigue autour du racisme, une autre autour de la guerre froide, une autre autour des Amérindiens. Mais c'est, au fond, c'est le... sous le vernis américain, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va vraiment pas plus loin que ça.
Et en quoi la sérialisation, je veux dire le format par épisode, apporte quelque chose peut-être à cette montée de la tension ou à l'horreur? Est-ce qu'il y a des scènes qui fonctionnent justement parce que c'est une série et plus un film?
Alors, je pense que justement, ce côté agrégat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de lignes narratives et au départ, on a l'impression d'être avec des ados, puis avec des militaires, puis en fait, et à chaque fois, on ouvre des portes. Et il faut dire aussi, ça c'est assez original dans les adaptations de Stephen King, qu'on va faire apparaître des personnages d'autres livres, notamment le fameux Dick Halloran, qui est joué par Chris Chalk, qui était le voyant médium de Shining. Et puis, à un moment, on envoie un personnage dans une prison et il part à la prison de Shawshank, qui, pour tous les fans de Stephen King, évoque bien sûr la prison des évadés, qui est une des plus grandes adaptations. Donc, la sérialité permet cette répétition, le fait d'entrer comme ça, pièce par pièce, dans différentes dimensions de l'horreur, à travers l'inconscient de différents personnages. Et moi, je trouve qu'elle fonctionne justement un peu sur la longueur. Je suis pas tout à fait satisfait. Et je pense qu'aujourd'hui, l'influence de ça, le clown, elle est beaucoup plus forte dans Terrifier, par exemple, la série de Damien Léon, ou alors la fameuse tante Gladys qu'on a vu apparaître dans Les Évanouis de Zach Kreger. Il est un peu partout. Mais moi, je le vois arriver sur des abribus, et je me dis, tiens, on n'en a pas fini avec ce qu'on appelle la coulrophobie, qui est la terreur panique des clowns.
Un dernier mot, Olivier, est-ce que vous diriez que c'est une série pour les fans? Elle est pour qui, cette série?
Ouais, elle est sans doute une série pour les fans, et une série pour... C'est un mélange étrange, c'est-à-dire qu'on est presque dans un univers Disney qui serait accolé à un univers horrible. Ce qui n'est pas inintéressant en soi, mais pour moi, il manque une dimension politique, une morale de la peur, de la mise en scène, qui était par exemple dans, je sais pas, Watchmen, il y a quelques années, de Damon Lindelof, qui travaillait un morceau de pop culture des comics et qui en faisait quelque chose d'assez extraordinaire.
Ça, bienvenue à Dérissé sur HBO, 8 épisodes à voir à partir d'aujourd'hui. Le dernier sera diffusé le 15 décembre.